Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiac, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera.
Encore une fois, un bon dimanche avec RMC. Un doux réveil avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h avec Laetitia Barlerin. Et puis juste après, ce sera l'automobile et Jean-Luc Moreau. Ce sera peut-être un petit peu plus bruyant, mais bon, un petit peu plus tard dans la matinée. Il n'y a pas de souci. Pour joindre Laetitia, 3216, le mail animaux@rmc.fr ou via l'appli RMC Direct Studio. Laetitia, tout à l'heure, nous irons visiter un parc 100% primates.
Eh oui.
Ça, c'est chouette.
Il s'agit de la Vallée des Singes, un parc unique en son genre, au cœur du Poitou, près du Futuroscope, il y a des singes, que des singes, des primates, enfin des singes et des lémuriens, et qui sont en liberté. Pas derrière des cages, pas derrière dans des cages ou dans des... Non, ils sont en liberté et certains peuvent être approchés quand même.
C'est génial.
C'est génial.
On en parlera tout à l'heure avec le responsable pédagogique de cette Vallée des Singes. Laetitia, sujet que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est la vie intime des poissons tout à l'heure.
Oui, parce que les poissons ont une vie intime.
Oui, et voilà. Croyez-moi, c'est pas joli joli. Voilà.
Bah, ça dépend. Non, justement, je pense que certains poissons peuvent être très romantiques.
C'est vrai ?
Oui.
Ah, ben voilà, il va falloir qu'on découvre ça tout à l'heure. Et puis, tout de suite, Laetitia, pour débuter, nous allons parler de ces animaux qui font l'histoire.
Et nous sommes avec Jean-Philippe Noël, auteur d'un livre qui s'appelle « Ces animaux qui font l'histoire », tout simplement, aux éditions de La Chaux et Niesté. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Laetitia.
Merci
d'être
avec nous en studio. Alors, dans votre dernier livre, vous avez décidé de raconter des histoires vraies, je le dis bien, vraies, d'animaux célèbres qui ont marqué leur époque. Alors, comment avez-vous sélectionné ces 50 animaux stars qui nous apprennent que nous apprennent-ils aussi de nous, de notre histoire? Parce qu'ils ont marqué leur époque, donc est-ce qu'ils ont marqué notre histoire?
Alors, comment j'ai choisi ces 50 histoires? En fait, depuis de très nombreuses années, je peux presque dire une dizaine d'années maintenant, je collabore régulièrement au magazine 30 millions d'amis.
Et oui.
Et où on s'est rencontrés d'ailleurs.
Oui. Et au supplément pour les enfants.
Voilà. Dans le cadre de supplément pour les enfants, je raconte depuis une dizaine d'années des histoires d'animaux qui ont marqué l'histoire. Et au bout de 10 ans, je me suis dit que j'avais quand même matière à proposer ces textes à un éditeur. Et je pensais au départ faire un livre pour enfants, et en fait mon éditeur m'a dit « mais non, développe les sujets, parce qu'effectivement, ces histoires sont riches. » C'est-à-dire qu'elles nous renseignent, elles commencent dès l'Antiquité avec des animaux aussi dont tout le monde a entendu parler, peut-être les oies du Capitole, et se terminent très récemment, je dirais presque avec en janvier 2017, avec la mort d'une orque qui s'appelle Tilikum. Et ces histoires nous racontent toute notre relation avec l'animal au cours de l'Antiquité, en prenant à chaque fois un animal qui est un individu qui a marqué l'histoire. Marqué l'histoire, ça veut dire que il a été identifié, il a souvent un nom, et son histoire a été reprise d'une façon ou d'une autre, soit par les chroniqueurs de l'époque, si on parle d'Hannibal, des éléphants d'Hannibal, soit par la presse, si on parle d'animaux plus récents.
Ils ont eu quand même, ce sont des stars médiatiques, on va dire, cours des siècles. Alors prenons par exemple une histoire insolite quand même, peut-être peu connue aujourd'hui, mais très connue à l'époque, parce qu'il y a eu un procès très médiatisé d'une truie. C'est-à-dire que au Moyen-Âge, cette truie, ça, qui s'appelle la truie de falaise, a été condamnée lors d'un procès.
Oui, alors, je veux dire que je suis content qu'on commence par ce sujet, parce qu'il est au cœur même de l'idée de mon livre. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les historiens n'ont pas considéré que les animaux étaient un sujet en tant que tel. Et on peut considérer seulement qu'il y a une vingtaine d'années, en fait, que les historiens, et puis maintenant les philosophes, un peu plus tard, mais ça va venir, les politiques comprendront que les animaux ont un rôle à jouer, vivent parmi nous. Et pourquoi je dis ça au sujet de la truie de falaise? Parce que c'est un procès qui a donc eu lieu à Falaise au Moyen-Âge, mais c'est un des très nombreux procès qui ont eu lieu
sur les animaux.
Au Moyen-Âge.
C'est-à-dire que les animaux allaient à la barre,
voilà.
Et on les accusait de
crimes. Voilà, exactement. Donc la truie de falaise tue un enfant, elle est arrêtée, on lui commet un avocat d'office, elle est jetée en prison, et puis il y a un véritable procès, comme aurait eu un procès pour les humains, où elle monte à la barre, et elle va subir un certain nombre de tortures, qui correspondrait à ceux qu'elle a fait à l'enfant, et puis ensuite elle sera pendue en place publique devant la population.
C'était quelque chose qui était assez fréquent au Moyen Âge d'avoir des procès d'animaux.
Oui, et c'est pour ça que c'est très important. C'est-à-dire que pendant 5 siècles en France et dans toute l'Europe, il y a effectivement très régulièrement des procès d'animaux. Ils sont principalement de deux types. Vous avez d'un côté les procès laïques, c'est celui dont on vient de parler avec la truie de falaise, où on va juger généralement un cochon, parce que les cochons vivent en proximité avec les hommes. Et puis, il y a les procès religieux, où là, on va plutôt juger ce qu'on appellerait aujourd'hui les vermines.
Les chats noirs ?
Non, pas les chats noirs, je dirais les nuisibles. Voilà, je cherchais le mot. On va juger les nuisibles. Dans mon bouquin, je parle effectivement des sangsues qui, dans un étang en Suisse, envahissent l'étang et qui deviennent très embêtantes parce qu'elles détruisent le poisson, parce qu'elles empêchent les animaux d'aller boire. Seulement, au Moyen-Âge, on est encore très religieux et on peut pas massacrer des créatures divines. Donc, on prend deux sangsues, on les amène devant
un juge
ecclésiastique, un évêque. Et qui l'évêque, il prononce l'excommunion.
Ah oui,
et on ramène ces sangsues, ça peut être des rats, ça peut être des sauterelles, on ramène ces sangsues dans leur étang, en leur disant, vous allez dire à vos petits camarades que si vous continuez à proliférer autant, vous serez excommuniés. Pourquoi on fait ça? Parce qu'au Moyen-Âge, le siècle est très religieux, tous les animaux sont des créatures de Dieu, et qu'on peut pas les détruire comme ça. Donc si on les excommunie, en gros...
Ouais, on peut encore...
On peut le faire,
on a
l'aval de Dieu.
Oh,
je pense que ce serait pas mal si on pensait assez un peu aujourd'hui, vu l'état de nos espèces animales.
C'est quand même une évolution incroyable.
Étonnant.
Alors, on en a parlé il y a pas longtemps, il y a une loi sur le maintien en captivité des dauphins et des orques qui a changé récemment. On en a parlé, ça annonce quand même la fin des delphinariums. Et on le doit en grande partie à un héros, malgré lui, qui s'appelle Tilikum.
Oui, un héros victime. Et Tilikum est donc une orque. Qui a été pêché à l'âge de 2 ans dans les eaux islandaises, si je me souviens bien, et qui va effectivement passer sa vie, comme la plupart de ces orques, dans des siquariums. Il commence en Europe et il va finir dans le plus célèbre des siquariums, celui de Orlando. Mais la particularité, la triste particularité de Tilikum, c'est que ce mâle a tué 3 personnes. Il a tué...
C'est dresseur. Enfin, c'est...
Alors il a tué en fait un homme qui s'est introduit nuitamment dans son bassin.
Bah oui, mais là.
Voilà, le mec a plongé, il a plongé dans le mauvais bassin. Et il a tué effectivement 2 de ses dresseuses.
Mais chérie, je vais à la piscine.
Ouais. Manifestement, c'était plutôt. Ouais, c'était un peu ça.
Il n'est jamais revenu.
Il n'est jamais revenu. Et en plus, ce qui est terrible, c'est qu'on a l'impression que l'orque, quand les gens ont découvert le corps de l'homme, il était totalement dénudé, ses parties génitales avaient été mangées, et l'orque le trimbalait sur son dos, comme un trophée. Tilikum est un animal très très particulier.
Ah oui, ça devait être quand même assez effrayant.
J'ai envie de dire qu'il a toujours mis en scène ses meurtres. Non, c'est un animal très particulier. Et donc, il a tué 2 de ses dresseuses devant des dizaines de personnes. Et donc, suite à ce, je sais pas qu'on appelle ça, ces homicides, ces meurtres, je sais pas. Il y a eu un jugement, effectivement, aux États-Unis, où il y a eu un certain nombre de règles qui ont été prises, dont celle, au départ, que les dresseurs ne devaient plus nager avec les orques. Et,
Il y a eu un film.
Un documentaire. Qui s'appelait Blackfish.
Qui a marqué
les gens, parce qu'on voyait effectivement comment ces orques étaient dressés. Pour la petite anecdote, en fait, vous savez que les dresseurs ne punissent pas directement les orques. C'est-à-dire qu'en fait, on confie à un orque, habitué, qui sait travailler, les punitions de l'orque qui ne sait pas travailler. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la femelle qui sait faire le numéro, qui va punir le genou qui ne sait pas travailler. Et donc, en gros, les hommes ne se salissent pas les mains, mais les orques sont capables de s'infliger des blessures épouvantables. Et Tilikum a terriblement souffert de ça, surtout qu'il a été à un moment maintenu dans des bassins où il pouvait à peine se bouger avec 2 autres orques. Mmh. Mais bon, on va pas refaire toute l'histoire de Tilikum. On va avancer un peu. Donc, Tilikum, en fait, c'est cet orque meurtrier qui a tué 3 fois, mais c'est aussi un mâle, et un superbe mâle de 7 mètres. Comment vous le dire? Pourquoi on n'a pas tué Tilikum? Pourquoi on s'est pas débarrassé de Tilikum plus tôt?
Mais parce qu'il le méritait quand même.
Parce qu'il le méritait. Mais parce qu'en fait, son sperme a servi à inséminer à peu près toutes les femelles dans les siquariums. Ah oui, il est donc le père d'à peu près 50% des orques.
C'est dingue ça.
Donc c'est-à-dire qu'en fait 50% des orques qui vivent aujourd'hui dans les siquariums ont un père meurtrier. Il m'a dit ça à un éleveur de chiens, c'est juste impossible.
Oui, c'est ça.
Et juste
c'est genre psychopathe en fait. Un
oui.
Peu.
Mais non, en même temps victime.
Parce oui, que mais enfin, il vit dans des conditions
épouvantables.
Parce qu'il faut savoir quand même que dans la nature, les orques, jamais, pourtant ce sont des prédateurs, n'attaquent un homme ou le tuent.
D'accord.
Alors que ce sont les plus grands prédateurs des mers.
Exactement. Okay.
Jean-Philippe Laetitia, on revient dans un instant. L'heure tourne. On poursuit toutes ces histoires passionnantes dans une minute. Ces animaux qui font l'histoire. C'est sur RMC. À tout de suite.
RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlera.
Le retour du week-end des experts, les animaux. Bon, écoutez, vous avez peut-être tout comme nous frémi avec cette histoire d'orque assassin, hein, Laetitia. On découvre donc ces animaux qui font l'histoire avec notre invité, Jean-Philippe Noël.
Alors, plus positif, une autre histoire. Vous racontez l'histoire d'un couple d'éléphants qui devint le symbole de l'amour idéal.
Oh. Exactement. Alors, il s'agit de Hans et Parky. Hans et Parky, il faut d'abord savoir que ce sont des éléphants qui appartenaient au prince d'Orange en Hollande. C'était un couple d'éléphants qu'il avait récupéré dans ses nombreuses colonies et qui vivaient là paisiblement jusqu'à ce que les révolutionnaires français aillent donner un coup de main aux révolutionnaires hollandais et prennent un peu le pouvoir, enfin le pouvoir s'installe un peu en Hollande et à ce moment-là, les savants français jetaient depuis très longtemps les merveilleuses collections naturalistes du prince d'Orange. Et donc, dès que la France s'est un peu installée là-bas, les savants ont couru et ont récupéré tout ce qui... On a fait un pillage énorme de toutes les collections. Et parmi ces collections, il y a ce fameux couple d'éléphants, on ne sait par qui vont arriver en France. Ça va être très très compliqué de les ramener parce que c'est bien beau de piquer des éléphants pour leur faire traverser toute la Hollande et toute la France jusqu'à Paris.
Ils venaient comment ces éléphants? Et
ben, ils venaient chacun dans un chariot.
Ah, d'accord.
Et pour vous expliquer en fait, la première fois, ils avaient chacun leur chariot. Hans, séparé de sa belle Parky, ne le tolère pas, ne le supporte pas. À peine est-il mis dans le chariot, qu'il explose le chariot pour aller rejoindre sa belle. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que naît l'idée que ces deux éléphants sont extrêmement épris l'un de l'autre. Et quand ils vont enfin arriver à Paris, qu'ils vont se retrouver après ces longues semaines de voyage, les journalistes vont décrire combien Hans est heureux à coups de trombonnades et de trompettes de retrouver sa chère femelle, sa chère
journaliste.
Ils en ont fait des tonnes.
C'est romancé.
Mais il y a pas que les journalistes. Non, alors il y a pas tant que ça parce que c'est vrai que les éléphants, c'est un couple d'éléphants, les éléphants sont des animaux sociaux, ils ont été élevés ensemble.
Exactement.
Je pense qu'effectivement ils sont très
très, très attachés l'un à l'autre.
Mais ces histoires que ces éléphants semblent tellement amoureux que ça pose une question terriblement aux savants de l'époque. Comment les éléphants font-ils l'amour?
Ah, ils se posaient la question.
Effectivement, les buffons en particulier, ils savent à peu près que tous les quadrupèdes font l'amour en levrette.
Ouais.
Mais on est persuadé que les éléphants...
C'est plus pratique en tout cas.
Voilà. Ouais. Mais on est persuadé à l'époque, et il y a des dessins qui me présentent ça, que les éléphants font l'amour en se regardant dans le blanc des yeux, à notre manière, un peu comme nous.
Ah oui, parce qu'ils pensaient que sinon le mâle allait écraser la femelle.
Oui, et puis je pense qu'aussi il y a une idée que comme ils s'aiment...
Oui.
Ils se regardent. Enfin, il y a un peu de ça quand même. Et donc, les scientifiques vont désespérément attendre
le moment
enfin où ils sauront comment Hans et Parky se reproduisent. Ce qui n'arrivera pas. Vous savez, Laetitia, que les éléphants ont une maturité assez âgée. Ils deviennent adultes vers 10 ans.
Oui. Voilà. Et puis le laps de temps des chaleurs de la femelle, c'est très très court.
Très compliqué. Donc, oui. Voilà. Et Hans est un jeune éléphant et malheureusement, il mourra. Avant d'avoir dévoilé les résultats, Buffon, le savant Buffon ne saura jamais comment l'amour des éléphants.
Ah,
bon, et on n'a pas progressé depuis, hein.
Sur les éléphants, un petit peu.
Un petit peu, quand même.
Sur le reste,
restons chez les éléphants. On parle toujours des éléphants d'Hannibal. Mais enfin, tout le monde les connaît, mais personne ne sait de quoi il s'agit. C'est quoi les éléphants d'Hannibal?
Alors, les éléphants d'Hannibal. Hannibal, c'est un général carthaginois du 4e siècle avant Jésus-Christ. Et à l'époque, L'ennemi de Carthage, c'est Rome. Rome veut devenir n'est pas encore la puissance que l'on sait. Carthage, et en fait, ils se disputent les rives de la Méditerranée. Hannibal décide d'attaquer Rome par le nord.
Et pour attaquer Rome. Par les Alpes?
Par le nord. Ouais. Et donc voilà, pour attaquer Rome par le nord, il faut qu'il quitte donc sa Tunisie natale. Il va jusqu'en bateau en Espagne. Il passe à la frontière aux Pyrénées, mais où c'est assez bas. Ils traversent le Languedoc, donc le sud de la France, et là, ils traversent le Rhône.
Oui.
La légende dit qu'ils traversent sur des radeaux ces éléphants. En fait, les éléphants, ça nage très bien, donc on ne comprend pas très bien pourquoi ils auraient pris des radeaux, mais c'est peut-être beau des éléphants sur radeaux. Et là, ils se retrouvent quand même face aux Alpes. Et ce qui fait le mystère, la célébrité des éléphants, des 37 éléphants d'Hannibal, c'est que depuis 2011, on se demande par où ils sont passés.
Ah, on ne sait pas ?
Non.
Ils sont vraiment passés par les Alpes ?
Ils sont vraiment passés par les Alpes, parce que Polybe, qui est l'historien de l'époque, qui naît très peu de temps après Hannibal, raconte l'histoire. Seulement, il donne le point de départ. On sait que c'est un confluent du Rhône et c'est probablement l'Isère au moment où le... Et il donne le Pau. Et il dit que voilà, quand une fois qu'il a traversé les Alpes, Hannibal se trouve face à la plaine de Pau, là où l'attend l'ennemi. Mais entre les deux, ça fait 2000 ans qu'on cherche désespérément où sont passés les 37 éléphants. Et pour vous dire à quel point on cherche, c'est que la dernière étude date de 2016, où des scientifiques ont découvert, on va dire, des résidus de crottes de cheval datant de 2000 ans, dans lesquels on imagine une telle concentration, parce qu'il y avait quand même, il n'est pas passé qu'avec des éléphants, il est passé avec, 80 000 hommes et 37, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est des milliers de chevaux. Donc là, ils sont passés, ils ont laissé des traces. Et dans une zone de tourbière, des scientifiques, qui donc recherchent désespérément par où sont passés les éléphants d'Hannibal, ont découvert les résidus de crottins qui dateraient de 2000 ans et qui prouveraient peut-être que les éléphants d'Hannibal sont passés par le
crottin. Mais parce que c'est les crottins de chevaux qu'on a trouvés, pas les crottins d'éléphants.
Non, 37 éléphants, ça laisse pas beaucoup de crottins.
Oui, c'est vrai.
2000 chevaux,
surtout 2000 ans après.
Voilà.
2000 ans après, c'est un peu.
Voilà. Alors que les chevaux, ça en laisse beaucoup plus, en fait.
Ah.
Et voilà. Mais peut-être qu'on a trouvé, ils seraient donc passés par le col de la Traversette à 2900 mètres d'altitude. Quand même, ce qui pour des éléphants est un exploit. Mais
ouais.
Voilà.
Certains disent que.
Il n'y avait pas de caméra à l'époque.
Bon, en tout cas, il n'y en a pas qui ont survécu. On va dire, ils ne sont pas reproduits, il n'y a pas des éléphants dans les Alpes.
Il n'y a pas d'éléphants dans les Alpes.
En tout cas, si vous en voyez, arrêtez tout ce qui est substance illicite, parce que ça peut être ça. Hein.
Surtout s'ils sont roses.
Alors là, s'ils sont roses, oui. Là, il faut se coucher tout de suite, hein, Laetitia.
Allez, une petite dernière.
Alors attention, Laetitia, parce que là, l'heure tourne. On peut peut-être donner juste un petit teasing. Hein. Ce que vous pouvez faire, Jean-Philippe, c'est nous donner un petit teasing de ce dont on va retrouver dans un instant. Et on en parle après la météo et les infos. Quelle histoire on pourrait aborder ensemble ?
Moi, je pense Teddy, le nounours.
Va pour Teddy.
Allez.
Teddy le nounours.
Bah, vous savez le.
Mais
le...
c'est pas un ours en peluche.
Bah si, l'ours en peluche que tout le monde
a.
Le Teddy Bear. Et vous savez pourquoi, comment il a été créé?
Ah bah alors là, pas du tout.
Eh ben son histoire.
C'est tiré d'un dessin animé ou pas?
Non. À un président américain très connu.
C'est vrai?
Oui.
Ah bah écoutez, vous savez quoi? Vous allez en savoir plus dans quelques instants sur RMC. Et puis après avec Laetitia. Autre sujet, on s'intéressera à la vie intime des poissons. Voilà, il y a pas mal de choses à raconter.
Mais c'est un peu de saison, non ?
Parce que dans l'eau, c'est plus rigolo. Hein,
ah voilà,
c'est
parce que, comme dirait Renaud, les poissons, dedans. Voilà, et voilà.
Et puis on découvrira la vallée des singes aussi, un très très beau parc 100% primates qu'on découvrira dans quelques instants. Ma chère Laetitia Barlerin, que diriez-vous d'une petite question flash ? Ça vous va ?
On y va.
Allez, en moins de 2 minutes, vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Denise. Denise qui nous a écrit par mail, animaux@rmc.fr. Des enfants m'ont apporté des hérissons, Laetitia. Comment les nourrir ?
C'est-à-dire m'ont apporté. Alors si ce sont des hérissons qui ont été vus en plein jour, faites attention, ça veut dire qu'ils sont malades.
Aïe,
un hérisson,
aïe.
Normalement, en plein jour, vit terré, se cache et ne sort que la nuit. Donc ça veut dire que s'il est malade ou s'il n'est pas bien en point, il faut absolument le mettre dans un carton. Dans le noir. Pourquoi ? Parce que sinon les mouches vont pondre sur le hérisson, ce qui va donner des asticots sur le hérisson.
Oh zut !
Donc il faut faire très attention à ça. Ensuite, il faut savoir que pour lui donner vite à manger en urgence, c'est un animal qui est insectivore et frugivore. Ça veut dire qu'il mange des insectes et des fruits. Alors vous n'allez pas attraper les mouches pour lui, mais vous pouvez lui donner des aliments pour chat. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de hérissons qui viennent manger dans la gamelle du chat la nuit. Les croquettes ou les boîtes, enfin ce que vous voulez. C'est vraiment une alimentation qui lui convient. Vous pouvez lui donner aussi des fruits, des légumes bien mûrs et des légumes cuits. Et surtout pas de lait et surtout pas de pain. Ça, c'est vraiment ou de biscuits d'ailleurs, de sucre. C'est vraiment l'erreur classique que l'on fait, c'est de lui donner du lait. Après, il a la diarrhée et il en meurt. Donc vraiment, mettez-le dans un carton avec tout ça à manger et amenez-le à un centre de sauvegarde de la faune sauvage qui va s'occuper de lui.
Oui, parce qu'on peut pas garder des hérissons.
On
hein,
peut
Laetitia.
Pas les garder. Alors normalement, on peut pas les transporter, donc faut les appeler avant pour leur dire qu'on arrive.
Oui. Bon, enfin après.
Voilà, voir un vétérinaire tout simplement qui va s'en occuper. Mais il faut savoir qu'un hérisson en plein jour, vu en plein jour, ce n'est pas normal. Il faut vite le mettre dans un carton, vraiment dans le noir, pour qu'il ne soit pas parasité par des mouches et autres.
RMC, c'est au 32-16,
45 centimes la minute,
et au 7-32-16,
65 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
C'est le retour du week-end des experts, les animaux. Un bon dimanche avec nous, et merci de nous suivre. Chaque samedi et dimanche avec les meilleurs experts de France. Laetitia, on a encore une petite demi-heure à passer ensemble. Ensuite, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Avant de parler de la vie secrète des poissons et avant de découvrir ce parc animalier 100% primate. Et bien avant tout ça, encore une petite histoire qui liée aux animaux qui font l'histoire. C'est passionnant. Et voilà. Là, on va remonter à l'origine de l'ours en peluche.
Et oui, nous sommes avec Jean-Philippe Noël, auteur de Ces animaux qui font l'histoire aux éditions de la Chaux et Nestlé. Et donc, après tous ces animaux, ces éléphants, ces orques, parlons d'une peluche. Le nounours Teddy, monde connaît.
Le nounours Teddy, effectivement. Alors, tout le monde le connaît. Tout le monde a eu un ourson, au moins un petit peu dans sa vie, a dormi dans les bras d'un ourson ou a serré le sien contre son cœur. On ne sait pas généralement qu'en fait, Teddy, c'était le surnom d'un président des États-Unis, de Theodore Roosevelt. Et Theodore Roosevelt, en 1902, est donc président des États-Unis, mais c'est aussi un chasseur expérimenté. Mmh. Et lorsqu'il est dans le Missouri, en partant dans le Missouri, où il mène une campagne ou je ne sais pas quoi, il est invité à une partie de chasse pendant 2-3 jours. Malheureusement, au bout de 2-3 jours, il ne s'est rien passé, il revient bredouille. Et le gouverneur de l'État est quand même un peu embêté, et au troisième jour, décide d'aller trouver un chasseur qui lui trouve un ours, mal en point, un ourson, un petit ours, de l'attacher à un arbre. L'attacher à un arbre et de dire au président...
Un ours
Donc le président se retourne, s'apprête à tirer, et découvrant ce malheureux animal tout attaché, magnanime, lui donne sa liberté.
Le Gracie.
Exactement, le Gracie. Cette histoire fait le tour des journaux, et un petit fabricant de jouets américain a l'idée de fabriquer un petit ours, qu'il appelle tout naturellement Teddy.
Lui, il a été super inspiré quand même.
Hein. Mais c'est pas lui, véritablement.
Ah bon ?
Et non.
Il s'est fait piquer l'ours. L'ours.
À un salon l'année suivante, un Allemand qui est un des grands fabricants de jouets d'ours en peluche qui s'appelle Steiff remarque l'ourson et lui fait véritablement un véritable ours en peluche, le Steiff que l'on connaît avec ses bras articulés et sa petite tête. Et c'est vraiment lui qui va devenir l'ours en peluche le véritable Teddy Bear, c'est lui. Il y a un peu une guerre entre les deux, mais voilà, l'histoire elle est là. Il faut savoir qu'en 1907, Steiff a vendu 1 million d'ours en peluche.
Waouh, wow.
C'est énorme.
Ah oui, surtout pour l'époque.
Voilà.
Incroyable, hein.
Exactement,
comme
voilà.
Il faut le savoir quand même, hein, que notre nounours en peluche, tout ça vient d'une partie de chasse d'un président américain qui est revenu bredouille, qui a gracié un.
Exactement.
Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe.
Merci beaucoup.
Ces animaux qui font l'histoire, 50 aventures d'animaux célèbres. Parfait en lecture pour cet été, là, sur la plage.
Ah, hein. Oui, mais c'est. En plus, il y a beaucoup de photos, d'illustrations. C'est vraiment, on passe d'une histoire à l'autre. C'est à raconter aussi aux enfants. C'est vraiment très passionnant.
Voilà,
merci, Jean-Philippe.
Édition de la Chaux et Nestlé. Merci. Laetitia, on enchaîne et on va parler maintenant de cette vallée des singes et ce parc 100% primate.
Voilà. C'est un parc animalier unique en son genre, au cœur du Poitou.
C'est pas moi, hein, là, qui crie.
À Romagne, près de Poitiers, c'était quoi? C'était des chiens ou c'était des singes?
Non, j'ai l'impression que c'était des singes. Hein.
Ah oui, 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 exact. Exact. Oui, oui. Mais ils aboient un peu. Hein.
Paul, c'est un peu ça. Paul, notre réalisateur, à son enregistrement, de temps en temps, va dans la savane, fait apprendre des bruits comme ça particuliers pour nous. C'est gentil.
C'est bien pour les bruitages. C'est Donc, bien. Nous sommes avec Magali Boyer, qui est responsable pédagogique à la Vallée des Singes. Magali, bonjour.
Bonjour. Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, la Vallée des Singes va fêter son 20e anniversaire l'année prochaine.
Oui.
Le parc pourrait s'appeler la planète des singes, hein, parce que c'est vrai que il est uniquement consacré aux primates.
Oui.
Il y en a plus de 450 et l'accent est quand même mis sur la liberté de ces animaux. Présentez-nous son concept.
En fait, le concept qui vient de Hollande, puisque nous sommes le petit frère d'un parc déjà existant en Hollande qui s'appelle Appenheul, Apeldoorn, créé par un passionné, voilà, qui souhaitait faire découvrir sa collection aux visiteurs, mais d'une autre façon, c'est-à-dire qu'il a complètement aboli les cages et les grillages, tout simplement sur un principe tout bête, c'est que la plupart des singes ont horreur de l'eau. Donc les animaux sont présentés sur des îles, donc soit des îles sur lesquelles on n'a pas forcément accès, hein, on ne va pas aller se balader au milieu des gorilles et des chimpanzés. Par contre, on a ce qu'on appelle des enclos d'immersion, qui sont quand même des îles, mais sur lesquelles les visiteurs ont complètement accès aux animaux et peuvent rencontrer les animaux au plus près, puisqu'on peut avoir un petit singe à 10 cm sans aucun souci.
C'est vrai. Alors, quels sont les primates que vous présentez ?
10 cm en plus.
Oui, parce que quels sont ceux qu'on peut vraiment beaucoup approcher? Bon, j'imagine bien sûr que les chimpanzés, les gorilles, on peut pas les approcher, mais quels sont ceux qu'on peut approcher?
Alors, on peut avoir, en fait, on a plusieurs enclos d'immersion sur le parc. Donc, on a les lémuriens, hein, qui sont des animaux très paisibles, très tranquilles. On a des petits saïmiri, qui sont des singes d'Amérique du Sud, qui sont que les gens apprécient énormément parce que ce sont très, très actifs. D'ailleurs, on va bientôt avoir les premières naissances de la saison. Voilà, on a plusieurs enclos comme ça où on passe au milieu des animaux. Alors, toujours en gardant à l'idée que nous ne les touchons pas. Voilà, les visiteurs n'ont pas le droit de les toucher, tout simplement pour le bien-être de l'animal. C'est des animaux qu'on veut garder le plus sauvage possible, donc avec des comportements où l'homme n'intervient pas. Voilà, donc les gens ont le droit complètement de se balader à côté d'eux, de les observer dans la forêt, puisqu'on a des enclos créés sur une ancienne exploitation de châtaigniers.
Oui.
Voilà, pour les observer au mieux et avec un comportement vraiment quasiment identique à ce qu'ils pourraient observer dans la forêt.
Les enfants doivent adorer.
Alors, oui, et les grands aussi.
Et les grands aussi. Alors, vous avez des animaux stars, ce sont les bonobos quand même.
Oui.
Parce que vous avez quand même le plus grand groupe de bonobos.
On peut le dire, Laetitia, c'est votre singe préféré.
C'est mon singe préféré, c'est vrai. J'ai un petit coup de cœur.
Un petit penchant, voilà.
Et quand même, la Vallée des Singes a le plus grand groupe de bonobos en captivité au monde.
Exactement.
Voilà, alors je sais que vous venez d'accueillir votre deuxième bébé bonobo.
Le sixième.
Alors, est-ce qu'on peut voir les bébés et comment se fait l'éducation d'un bébé bonobo dans le groupe?
Alors, nous, on a comme politique de laisser les mamans s'occuper des bébés complètement de A à Z. On n'a pas de nurserie sur le parc. C'est
D'accord.
vraiment les mamans qui s'en occupent, d'où l'idée, encore une fois, d'avoir un comportement très naturel. Donc, nous, on n'intervient pas du tout au niveau des naissances, sauf si, évidemment, il y a un petit souci. Mais c'est vrai que chez les bonobos, on a vraiment eu beaucoup de chance, puisque on a eu deux bébés en 2012, deux bébés en 2014, un en 2015, et donc la petite dernière, qui est du mois d'avril 2017. Donc, une petite Kimia, une petite femelle, qui va rester chez nous jusqu'à son adolescence, puisque chez les bonobos, l'éducation est très très longue. Les mamans mettent 7-8 ans à éduquer les jeunes. Ils ont beaucoup beaucoup de choses à apprendre, hein, surtout au niveau social. La vie sociale chez les bonobos est extrêmement complexe. Ce sont les femelles qui dirigent dans ces groupes-là, avec une hiérarchie, avec des liens qui doivent se créer entre les individus pour qu'il y ait une cohésion sociale. Donc ce petit a besoin de grandir vraiment auprès de sa mère pendant de nombreuses années, apprendre aussi à la manipulation des outils. Voilà, la culture des bonobos est extrêmement riche, comme celle du chimpanzé d'ailleurs. Hein, ils sont cousins. On est aussi proche des bonobos que des chimpanzés. Voilà, donc cette éducation, elle est extrêmement longue. La petite dernière là est issue de la femelle dominante du groupe. Oui. Donc elle va avoir un statut particulier, hein. Elle va être dominante
également.
Ce sera la
petite princesse, quoi.
Ce sera la petite princesse, voilà, exactement. Et l'idée aussi, c'est que chez les bonobos, les fils ne quittent jamais leur mère.
D'accord.
Voilà, ils vont passer toute leur vie avec leur maman, tout simplement parce que les fils ont extrêmement besoin de la protection des mamans bonobos, tout simplement parce que les mâles ont très très peu d'influence dans le groupe. Ils sont vraiment au bas de la hiérarchie, et lorsqu'une
c'est
bagarre...
C'est pour ça que je les aime bien.
Alors chez les Saïmiri, on fonctionne comme ça aussi. Hein. Il y a pas mal, finalement, quand on fait le tour, il y a beaucoup d'espèces de primates où les femelles dominent.
Matriarcale.
Oui, exactement. Mais c'est vrai que chez les bonobos, quand une bagarre va éclater, parce que bah, c'est vrai qu'ils résolvent beaucoup de soucis par le sexe. Voilà,
bah, c'est ce que j'allais... Oui, j'allais voilà, vous... Parce qu'on n'en parle pas, là. Oui. On tourne autour du pot, là.
On tourne autour du pot, quand même.
S'il y a des petites tensions, effectivement, on va avoir beaucoup de comportements sexuels pour faire diminuer ces tensions-là, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne se battent jamais. Voilà, on a longtemps eu l'image du bonobo peace and love, c'est pas oui. tout à fait vrai. On peut avoir des punitions des femelles qui peuvent être quand même assez sévères. Hein. On peut avoir des sections de doigts de pied.
Ah bon,
voilà, elles sont pas toujours très sympas. Et c'est vrai que lorsque une vraie bagarre éclate, la bagarre finira toujours sur la tête d'un mâle. Voilà, ça, elles sont toujours d'accord, c'est toujours la faute d'un mâle, même s'il n'a rien à voir dans l'histoire.
Mais après, tout ça se résout sous la couette ou pas forcément?
Alors, on aura de toute façon toujours une réconciliation.
Enfin, quand je dis sous la couette, c'est une image, hein,
bien sûr.
Que j'imagine pas que les bonobos aient des couettes.
Non, par contre, ils se fabriquent bien un nid, hein, le
un
soir,
nid, ouais.
pour aller se coucher.
Ah, d'accord.
Non, ça se finira toujours par une réconciliation. Après, la réconciliation arrive plus ou moins rapidement. Alors, ça a déjà été observé. Moi, j'ai eu l'occasion de le prendre en photo aussi, par souvent des poignées de main.
Oh.
Non, c'est pas vrai.
Les bonobos vont serrer la main pour
Tiens,
dire merci.
C'est incroyable.
C'est aussi pour ça qu'on peut avoir souvent des blessures aux doigts, parce que lorsque le mâle va tendre la main vers l'individu vers lequel il doit se faire pardonner, hein, même si encore une fois il a rien fait, si la femelle en face n'est pas forcément d'accord, ou elle juge que c'est pas encore le bon moment,
ouais.
C'est là où il risque de se faire croquer un petit peu les doigts.
Ah, c'est-à-dire qu'elle lui mord la main.
Voilà, elle lui mord la main.
Eh bien, dites-moi. Merci beaucoup, Magali.
Merci beaucoup. Alors, la vallée des singes, bon, c'est les bonobos, mais aussi c'est beaucoup d'autres
beaucoup.
Primates.
34 espèces.
Voilà.
Presque toucher, on va dire.
Voilà. Des singes, des lémuriens. C'est au cœur du Poitou, à Romagne, près de Poitiers. Et franchement, si vous êtes dans le coin cet été, faites un tour à la Vallée des Singes. Vous allez voir, vous allez passer un moment extraordinaire dans un zoo vraiment pas comme les autres. C'est un parc, vous avez vu, hein, il n'y a pas de grillage, pas même de vitres. Hein. Ils sont sur des îles et
c'est
vous
génial.
Pouvez bien les observer.
Bon, en revanche, je ne serrerai pas la main à un bonobo, surtout si c'est une femelle. Ça risque de vous coûter un bois, c'est pas drôle, cette histoire-là. Donc,
on ne check pas avec le bonobo.
Oui, voilà, il faut bien discuter avant pour voir s'il est d'accord. Merci Magali.
Merci,
on revient.
Magali. Bonne fin de journée.
On revient dans un instant, Laetitia, avec un sujet qui est beaucoup plus aquatique, puisque nous allons parler de la vie intime des poissons.
Eh ben oui.
Voilà.
Il faut savoir, là, quand vous nagez là dans la mer, des poissons.
Les dessous, c'est un peu la pagaille, on va dire.
Une vie, quoi.
Et
oui.
Vie intime.
Bah oui, comme tous.
Bon, ça va pas nous dégoûter, on va quand même se baigner.
On va voir s'il y a des poissons bonobos.
Ah, ça c'est cool. Bon, dans un instant, le retour du week-end des experts, les animaux, à tout de suite.
RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Nous voilà de retour, le week-end des experts, les animaux. Encore une petite dizaine de minutes à passer ensemble. Et puis ensuite, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau, comme tous les dimanches. Laetitia, après avoir évoqué ces animaux qui font l'histoire, après avoir longuement évoqué aussi cette vallée des singes, hein, ce parc 100% primate et la vie, on va dire plutôt active des bonobos, maintenant on va dans l'eau.
Bah oui, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans l'eau. D'abord, il y a des poissons. Les poissons ont une vie intime et nous allons justement plonger dans la vie intime des poissons avec le professeur Jacques Brûlé, qui est co-auteur avec le professeur Jean-Pierre Quigard des livres Pas si bêtes les poissons et La vie sexuelle des poissons.
Allez, allez.
Les deux livres sont aux éditions Belin. Professeur, bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour.
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 Alors, on va un petit peu parler de la vie intime de certains poissons. Intéressons-nous d'abord à la vie du poisson clown. Alors, le poisson clown, tout le monde connaît, c'est Nemo. Hein, que ça en fait un
c'est
film.
C'est Nemo, voilà. Oui. C'est aussi ce qu'on appelle un amphiprion, oui.
Voilà. Mais c'est surtout un poisson qui change de sexe en même temps qu'il change de statut social.
Tiens.
C'est ça?
Oui, c'est le, vous savez que dans la corolle, parmi les tentacules d'une anémone de mer, se retrouve localisé généralement un couple de poissons clowns et puis des juvéniles. Et le système est tout à fait hiérarchique et matrimonial. C'est la femelle qui est de plus grande taille et c'est elle qui impose en quelque sorte le contrôle de la sexualité du mâle qui est sous sa dépendance et des juvéniles qui sont stériles.
Ah.
Et donc l'intérêt, c'est que s'il arrive malheur à cette femelle,
oui.
elle peut périr par un passage d'un prédateur, encore qu'elle soit bien protégée par les tentacules de l'anémone, eh bien le mâle n'est plus inhibé par la présence de sa partenaire, change de sexe et de ce testicule naît en quelque sorte un ovaire et ce mâle devient une promotion sociale et il devient le chef du groupe.
Et alors pour être chef du groupe, il faut changer de sexe et devenir femelle.
Voilà, c'est ainsi qu'est conçu le système hiérarchique. Et un des juvéniles qui jusqu'alors était inhibé voit se développer son testicule, donc le couple, un nouveau couple fonctionnel est donc ainsi établi.
C'est incroyable. Alors est-ce que des amours romantiques existent chez les poissons? Est-ce qu'ils sont romantiques les poissons?
Ah oui, on peut dire qu'à certains égards, ils sont romantiques, ne serait-ce que parce que parmi tous les signaux qui s'échangent les mâles et les femelles, signaux visuels, signaux olfactifs, il y a aussi des signaux auditifs. Et il est bien connu chez certaines espèces, comme certains poissons crapauds, que des vocalises et même des chants chorales régissent les rapports entre les sexes, les mâles, ayant des capacités d'émission de signaux sonores variés, des sifflements, des grondements, des grincements, etc.
Les mâles chantent la sérénade.
Ce sont les mâles.
Ils chantent la sérénade aux femelles.
Voilà. Ils cherchent à les séduire. Et ce sont les mâles qui ont les plus fortes capacités vocales en rapport avec leur plus grande taille. Parce que les sons sont émis par des muscles soniques, qu'on appelle soniques, émetteurs de son, qui font vibrer la vessie natatoire, la vessie gazeuse. Donc plus le mâle est grand et fort, plus les signaux ont une fréquence et une intensité élevées.
Et les plus, femelles, et plus
qui
les
cherchent
femelles
toujours
se
les beaux mâles et les grands mâles, sont séduites.
Oui. Les petits gabarits sont vraiment pénalisés alors à ce moment-là.
Ah oui, en général, il faut qu'ils grandissent.
Il faut avoir une belle voix.
Il faut qu'ils aillent à la salle de sport, se muscler un peu.
Il faut être grand et avoir une belle voix chez les poissons.
Il faut être beau, il faut être grand, il faut être un bon chanteur et un habile courtisan. Il y a beaucoup d'exigences de la part des femelles.
J'espère bien. Alors, vous parlez aussi dans votre livre de l'homosexualité des poissons, puisque c'est une réalité dans le monde animal, et en particulier chez les poissons.
Oui, c'est une réalité, mais dans certaines conditions de développement et d'isolement sexuel. C'est-à-dire que si des mâles sont isolés et vivent en l'absence de femelles, ils établissent des relations de proximité avec eux et ils deviennent homosexuels. Mais on peut considérer que ça ne se produit que si la population est très déséquilibrée dans ce qu'on appelle le sexe ratio, donc s'il y a un grand déficit en femelles. Normalement, les mâles ont des contacts avec les femelles et donc ne pratiquent pas l'homosexualité. L'homosexualité, c'est une espèce de compensation. Et ce qu'il faut dire, c'est que ça n'est pas inutile parce que on admet que c'est une forme d'éducation sexuelle et que ces mâles homosexuels pourront devenir bisexuels lorsque des opportunités se présenteront.
D'accord. Alors, vous avez un chapitre dans votre livre « La vie sexuelle des poissons » qui est consacré aux amours intéressés. Alors, ça veut dire quoi, les amours intéressés ?
On peut dire que dans les rapports entre les deux sexes, les mâles se proposent et les femelles disposent. Et comme nous l'avons déjà dit, les femelles recherchent les mâles les plus vigoureux, les plus beaux, les meilleurs chanteurs, etc. Mais elles sont intéressées donc par l'espoir d'avoir une descendance la plus prolifique et de meilleure qualité. Mais parmi les exigences des femelles, il en est une qui est très importante. Chez les espèces qui protègent leur progéniture dans des nids, eh bien, elles recherchent des mâles qui ont des territoires les plus étendus, les mieux abrités des prédateurs, et où donc leurs œufs et puis leurs larves ont des chances de survie les plus élevées.
Alors, on approche aussi...
dans la vie.
L'homme enceint, enfin le mâle enceint,
oui.
Ce sont les poissons qui l'ont déjà inventé. C'est ça?
Alors, inventé, oui, on peut dire d'une certaine façon. Les syngnathes et surtout les hippocampes pratiquent une gestation par le sexe mâle. Les mâles ont une poche incubatrice, qu'on appelle d'ailleurs parfois marsupium, par allusion aux poches marsupiales des kangourous. Mm-hmm. Et les femelles déposent leurs œufs dans la poche marsupiale, et le mâle couvre en quelque sorte ses œufs. Oui. Et puis ces petits sortent par un orifice, et il y a un véritable accouchement, une parturition, comme disent les spécialistes des mammifères. Mais est-ce qu'ils souffrent de... est-ce qu'ils connaissent les douleurs de l'enfantement ? C'est beaucoup dire. Hein.
Oui, ils sont là, oui, c'est, ils sont là plutôt pour, comment dirais-je, faire en sorte que la grossesse se passe bien, en quelque sorte.
Oui, oui, ouais, mais d'ailleurs, ça. Il n'y a aucun problème, parce que... Dans la poche marsupiale, il n'y a pas de contact sanguin, il n'y a pas
un placenta,
il n'y a pas un arrachement vasculaire. C'est comme un nid, en quelque sorte.
Voilà. Oui, mais quand ils mettent bas, comme on dit, ils ont des contorsions qui font penser à un accouchement.
Oui, voilà, on peut, avec un peu d'imagination, penser que c'est un peu douloureux. D'ailleurs, là se pose de nouveau une autre question. Est-ce que les poissons sont sensibles à la douleur ?
Oula, alors ça, c'est un débat qu'on ouvrira peut-être une autre fois. Merci beaucoup, professeur.
Voilà, oui, j'allais vous dire, ça peut nous mener assez loin.
Ouais. Merci beaucoup.
Merci. Donc
je reste à votre disposition si une opportunité se présente. Merci. Je serai content de répondre.
Parfait, merci beaucoup.
Merci. Je rappelle que vous êtes co-auteur avec Jean-Pierre Quignard du livre « Pas si bêtes les poissons » et surtout « La vie sexuelle des poissons ». Ces deux livres sont aux éditions Belin. Et franchement, à lire sur la plage, c'est pas mal.
Oui, et puis bon,
La vie sexuelle des poissons, vous allez voir, c'est...
Surtout en ce moment où on se baigne dans la mer.
Voilà.
Comme ça, vous imaginez ce qui se passe en dessous. Laetitia, on se retrouve dimanche prochain.
Oui.
Voilà, on sera là.
Oui, dimanche prochain, c'est un best-of, mais le dimanche d'après, du coup.
Et effectivement, mais ça n'empêche pas qu'on sera là.
Mais on sera
prochain.
Quand même là, voilà. Bien entendu.
Bien évidemment, dans un instant, après la météo et les infos, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau.
Bon dimanche à tous.
Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.